Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
L'accès aux services de santé au Mali reste toujours un défi. Bien que des mesures ont été prises, la situation stagne. Les populations éprouvent des difficultés à accéder aux soins de santé. Nos invités sur ce plateau, Mariam Diawara, porte-parole du collectif Santé pour tous Mali, Mamadou Sissoko de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées, Madame Maïga Aminata Traoré, présidente de l'association pour la protection des albinos, et Monsieur Malik Kounaté, citoyen. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue.
Les pannes fréquentes.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Toutes nos excuses pour cet incident. Accès aux services de santé au Mali, la situation est détériorée selon plusieurs observateurs. Nous allons ouvrir le débat avec vous, Madame Diawara. Mais jusqu'à quel niveau cette situation elle est compliquée?
Je vous remercie d'abord de nous donner l'opportunité de dire ce que nous pensons sur ce plateau. Le collectif Santé pour tous, justement, a été mis en place pour suite au constat de la catastrophe qui se passe dans nos structures de santé. Et quand vous me dites à quel niveau, moi je vous dirais jusqu'au bas de l'échelle à moins zéro. C'est à moins zéro, parce que la situation est vraiment catastrophique.
Et quand vous dites qu'elle est catastrophique, pourquoi?
La situation est catastrophique parce que, d'abord, il y a un déficit à tous les niveaux dans les hôpitaux, un déficit managérial. Ceux qui sont là pour diriger les hôpitaux ne sont pas formés pour. C'est généralement des personnes qui sont là par affinité et autres, donc ils méconnaissent les béaba du fonctionnement d'un hôpital. Ensuite, il y a un déficit au niveau du matériel utilisé. Nous avons discuté hier justement avec le directeur de l'hôpital Gabriel Touré qui nous a expliqué que dans un hôpital de niveau 3 comme Gabriel Touré, il y a tout le matériel qui existe est un exemplaire unique. Ce qui fait que si un matériel tombe en panne, il y a des problèmes pour le remplacement et les malades sont pénalisés. Il y a un problème au niveau du personnel, parce que le personnel est mal formé et souvent très négligent. Et voilà.
D'accord. Et vous, Monsieur Sissoko, qu'en dites-vous?
Moi, je vais rejoindre Mme Diawara parce que au Mali, il faut reconnaître qu'on ne va pas dire que la situation est catastrophique, mais on a beaucoup à faire, parce que déjà, dans un domaine de droit socioculturel tel que la santé, et qui est un droit pour tous les Maliens et Maliennes, quand on constate déjà qu'au niveau de la législation, nous n'avons pas de loi inclusive qui vont donner des politiques qui ne sont pas inclusives, et comme elle a dit, des plans d'action qui ne reflètent pas les besoins réels des populations, c'est tout à fait normal que nous nous retrouvions face à des résultats catastrophiques, comme il le dit.
D'accord. Alors, Monsieur Konaté, en tant que citoyen, quelle est votre observation par rapport à cela?
En fait, je vais rejoindre ma voix à mes prédécesseurs. C'est, en fait, tout simplement, il y a un manque de volonté politique dans notre pays. Parce que quand on constate réellement en tant que... Moi, je vais rebondir un peu en tant que citoyen. Quand on regarde un peu le ministère en charge de la santé, le ministre même en question, il se soigne où? La question doit être posée. Et si on regarde aussi dans nos hôpitaux, qui doit s'occuper des malades, qui doit faire quoi et qui ne doit pas faire. Maintenant, si on regarde, comme elle a dit, l'hôpital Gabriel Touré, c'est comme les raïdas. Tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux. Et souvent même, on constate, souvent, il y a des vigiles à la porte. Oui, mais il y a des vigiles, souvent, on présente juste des formes en disant que je viens pour voir telle personne, on te laisse passer. Hier même, je suis passé là-bas pour juste voir réellement si c'est vrai. J'ai demandé au vigile, il a dit que tu vas aller voir. J'ai dit, je vais aller voir tel professeur. Il m'a laissé passer. Donc, ça veut dire que c'est devenu n'importe quoi. Et je peux me permettre aussi de me mettre en blouse blanc, mais en même temps, de rentrer dans l'hôpital et faire ce que je veux. Donc, l'État doit prendre sa responsabilité et aussi l'administration, la même chose, tel que dans les hôpitaux. Parce que quand on est allé voir le directeur, lui, à son niveau, il est au courant. Bon, pratiquement, il est au courant de l'administration. Mais la gestion même, le fond même, le problème, est-ce qu'il est au courant? Donc, il doit s'impliquer davantage dans la gestion même de l'hôpital. C'est ce que je peux dire.
D'accord. Alors, Madame Maïga, est-ce que vous rejoignez vos prédécesseurs concernant ces difficultés-là qui sont dans ce domaine?
Oui. Bonsoir à tous. Je les rejoins parce que je dirais aussi que l'État doit prendre ses responsabilités et mettre des mesures en place pour que les machines qui sont un exemplaire, une seule machine, ça, c'est pas du tout bon. Il faut prendre toujours des mesures pour que quand il y a des machines qui tombent en panne, qu'ils soient remplaçables, pour qu'il n'y ait pas de pénurie, que les malades ne soient pas mis, pour que les malades ne soient pas mis à côté parce qu'il y a problème de machine ou qu'il faut qu'il y ait des moyens pour aller à l'extérieur pour pouvoir se faire soigner. Il faut que le gouvernement revoie cette politique-là pour qu'il ait les moyens, il donne les moyens aux hôpitaux pour pouvoir bien gérer la situation.
D'accord. Mm-hmm. Et comme vous avez souligné la question, le scanner de l'hôpital Gabriel Touré était en panne pendant 7 mois. Selon le directeur du CHU Gabriel Touré, Kassoum Mamourou Sanogo, les appareils sont surexploités. Je vous propose de l'écouter.
Les pannes fréquentes de nos équipements dans le scanner sont liées à la surutilisation de ces équipements. En parlant du scanner, voici une machine qui est très robuste, très solide, qui sert à faire des images, des radiographies. Mais la sollicitation est telle que cette machine, une fois qu'on l'allume le matin, on ne peut plus l'éteindre. Ça veut dire que c'est une machine qui tourne 24 heures sur 24. Une machine ne peut pas tenir un tel régime pendant longtemps. Le fabricant ne l'a pas prévu ainsi.
Alors, vous venez d'entendre tout de suite le directeur du CHU, Gabriel Touré. Peut-on s'attendre à une réponse adéquate pour éviter ce genre de situation, Madame Diawara?
Normalement, la réponse adéquate doit venir des décideurs. C'est à eux de mettre à la disposition des différentes structures le budget adéquat pour faire les achats et aussi prendre les mesures nécessaires. Je reviens sur la législation en la matière. C'est une abomination qu'il existe une loi hospitalière depuis 2002 et que les chefs de service méconnaissent cette loi. Et je peux vous assurer que même au ministère de la Santé, beaucoup ne la connaissent pas. Ce n'est pas des paroles en l'air. J'ai discuté avec beaucoup de médecins qui méconnaissent complètement le contenu de cette loi. Alors que si cette loi avait été divulguée à bon escient, on aurait pu éviter beaucoup de choses parce que les usagers auront connu leurs droits et auront su que faire en cas de problème.
Mais qu'est-ce qui explique cette situation du fait que même les médecins eux-mêmes ne sont pas au courant de...
Mais c'est une négligence, parce que ce qu'il y a au Mali, c'est que il y a une maxime très connue, nous avons tendance à copier le blanc. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc nul n'est censé ignorer la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que la loi elle est promulguée, publiée au journal officiel, tout le monde est supposé la connaître. Alors que ce n'est pas ça. Les gens ont autre chose à faire. Et vous ne pouvez pas promulguer une loi et ne pas mettre en place des mesures nécessaires d'accompagnement. Accompagnement, c'est-à-dire que je serais le ministre du département de la Santé, j'aurais exigé à ce que tous les chefs de département, tous les directeurs soient quand même au courant de ce à quoi ils s'exposent quand il y a des abus dans les hôpitaux. Et il y a une charte des malades. Il y a un arrêté qui prévoit une charte des malades et cette charte des malades, normalement, doit être exposée dans tous les services des hôpitaux et ça n'existe dans aucun hôpital au Mali, si ce n'est au Sénos. Donc, à quoi ça sert finalement de prendre des mesures s'il n'y a rien derrière? Finalement, c'est de la négligence. Je pense qu'on s'amuse avec notre vie.
D'accord. Alors, Madame Maïga, Madame Diawara nous parle de négligence. Êtes-vous du même point de vue qu'elle concernant cette situation, surtout sur la loi hospitalière?
Bon, moi, je dirais aussi que bon, je la suis parce que oui, il y a la négligence, mais aussi, il faut aussi avoir
l'investigation de tout le monde. Voilà, pour cette loi, je dirais aussi qu'il faut que le gouvernement instaure au moins tous les docteurs qui seront recrutés, qu'ils aient une formation sur ces lois-là, pour qu'au moins ils puissent être au courant de ça et qu'ils l'adoptent aussi dans leur comportement de tous les jours.
Et vous, M. Konaté?
Moi, je pense qu'il y a une négligence quelque part. Quand elle parle de qu'il y a une méconnaissance au niveau des médecins, il y a une négligence quelque part. Parce qu'en tant que chef, tu dois impliquer, tu dois imposer pour que les gens puissent aussi, au moins connaître davantage ce qu'ils doivent faire. En tant que ministre, tu ne veux pas rester dans ton bureau ou participer au conseil des ministres ou participer à des cérémonies pour faire des discours. Tu dois t'y rendre et voir éventuellement qu'est-ce qui se passe. Est-ce réellement ceux qui ont, c'est-à-dire qu'on a confiance ou on a confié des tâches, est-ce qu'ils existent, c'est-à-dire exécutent réellement ces tâches-là? Donc je pense que tout ce qu'on est en train de dire, c'est la négligence de l'État. Il faut que l'État s'implique. Parce qu'aujourd'hui, si on constate la Constitution, l'article 17 ou l'article 18, je pense que c'est l'article 17, dit que la santé, c'est un droit fondamental. Ici, c'est un droit fondamental. Et pourquoi tout cela? Et quand on regarde le scanner, quand on a signalé, ça fait près de 7 mois qu'il était en panne. Quelque chose qu'on pouvait réparer en un clin d'œil. Bah, c'est 3 millions, 4 millions de francs CFA. Je ne vais pas dire on a bouffé, mais on a détourné combien de millions? Et pendant 7 mois, combien d'individus, c'est-à-dire qui ont subi ou qui ont été victimes la panne de scanner? Donc on doit mesurer. Donc je pense qu'il doit avoir sanction quelque part. La sanction doit venir d'où? C'est du ministère. Et ça doit aller où? C'est l'administration. Et l'administration, quand on est allé voir le directeur, le collectif Santé pour tous est allé voir le directeur, quand on a regardé la vidéo, ils disent qu'ils ont 3 milliards 500 millions de francs CFA. Mais les 3 milliards, ça sert au fonctionnement. Et 500 millions, c'est juste le fonctionnement, l'achat des autres, que ça ne peut pas acheter un scanner. Mais pourquoi ils n'ont pas demandé, pourquoi ils n'ont pas communiqué? C'est ça le problème. Les 500 millions de francs CFA, s'ils avaient, c'est-à-dire au moins réparer le scanner et ensuite demander ou avoir un communiqué en disant, nous, au niveau de notre hôpital, on a besoin de ça, on a manque de ça. Parce que l'État est en train de gaspiller nos ressources, parce que je me permets de dire nos ressources, parce que c'est nos impôts et nos taxes. Donc on ne peut pas comprendre dans un pays sérieux, comme on le dit, dans un pays de droit, qu'on laisse des citoyens dans cette situation pénale et aller prendre nos avions, c'est-à-dire des avions pour aller ailleurs. Parce que les ministres, je commence d'abord par le ministère de la Santé, je répète encore, ils se soignent où? En tant que professeur, en tant que docteur. Et le président de la République, qui est le garant même de la Constitution, qui doit, c'est-à-dire, être là pour le bien-être de la population, lui aussi se soigne où? Chaque fois, on le voit. Il prend ses avions, il part, c'est-à-dire, dans les autres pays, en France et ailleurs, pour se soigner et laisser les citoyens. Donc je pense que c'est à nous citoyens, en tant que, en tant que citoyens du pays, de prendre des soins et choisir ce qu'il a à choisir.
D'accord. Monsieur Sissoko, qu'avez-vous à ajouter à ces propos?
D'abord, avant d'arriver sur la loi, je vais réagir au niveau du cas du scanner.
Oui, allez-y.
Et c'est inconcevable de recevoir des réponses comme ça en tant que citoyen. Ce n'est pas, le Gabriel Touré n'est pas une clinique privée où le gérant rend compte au conseil d'administration. C'est un hôpital qui doit garantir la santé des Maliens. Et avoir ces réponses, c'est vraiment décevant parce que là, il faut comprendre que, comme il a dit, c'est la santé qui est à garantir. C'est l'État. On parle d'un État, on ne parle pas d'un privé qui dira que c'est même honteux de dire qu'on n'a pas les moyens pour réparer le scanner. Que le scanner s'allume toute la journée. Non, ce n'est pas possible. S'il y a surutilisation, tout ça, c'est la faute revient à l'État. C'est à eux de savoir que le scanner qu'on utilisait il y a 10 ans, aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser comme ça, tout simplement parce qu'on tient compte du taux de démographie. Et tout simplement, à partir de ce taux de démographie-là, nous sommes amenés à avoir des plans de prévision. Si on utilisait un scanner de 2000 à 2010, on doit comprendre que de 2011 à 2025, on doit utiliser 3 scanners. Parce que Bamako, passant de 1 million, va passer à tel million d'habitants. C'est un travail global. C'est un travail d'équipe. Comme on l'a dit, c'est vraiment quelque chose qui touche tous les secteurs. et qu'on vient regrouper au niveau de la santé pour sortir quelque chose de positif. Quand il dit ça déjà, ça sort les insuffisances. Hein. Ça sort les insuffisances de la gestion.
Mais est-ce que l'État est le seul réellement à blâmer, selon vous?
L'État, d'abord. Le seul, tout le monde, quand on blâme l'État, tout le monde va se retrouver dedans. Quand on blâme l'État, non seulement les gestionnaires du service de santé vont se retrouver dedans, mais ce domaine de la santé aussi, qui est géré par d'autres institutions de l'État. Vous me comprenez un peu? Et à commencer même par la primature, à commencer par l'Assemblée nationale, à commencer par le Conseil économique et social. On va les toucher tous parce qu'ils travaillent en lien pour le bien-être et la garantie de la santé des Maliens. C'est ce qu'il faut comprendre. Ou aussi aller au-delà. Pourquoi les bailleurs qui investissent dans la santé ne sortent pas des indicateurs qui leur permettent d'être sûrs que nos hôpitaux sont équipés des équipements, de matériel et équipements adéquats et de manière durable? C'est plein de questions que nous nous posons. Mais le premier responsable à garantir la santé des Maliens, c'est l'État malien à travers le ministère de la Santé. Donc il est le premier responsable.
D'accord.
Maintenant, ce qui concerne la loi, on peut trouver beaucoup d'arguments. Valables ou pas, d'autres sont subjectifs, d'autres sont objectifs, on dira ceci, on dira cela. Mais je vous dis une chose en matière de loi, quand une loi est promulguée, après un temps, si ça ne passe pas, ne cherchez pas loin, c'est que la loi n'est pas appliquée. Quand on applique la loi, même celui qui ignore que la loi existe, par l'application, il saura qu'elle existe. Il va chercher à voir la loi, il va s'informer sur la loi. Et à la fin même, il peut même maîtriser la loi que celui qui l'a conçue. Donc au niveau de la loi n'est pas appliquée. Hein? Elle n'est pas disséminée. Et voilà.
D'accord. Alors, Monsieur Konaté, vous avez mentionné des chiffres de financement. Est-ce que sur le plan financier, avez-vous une idée de la somme allouée à ce secteur-là?
Bon, en fait, le Gabriel-Touré, ce que je peux dire pour l'instant, c'est l'hôpital Gabriel-Touré. Ça ne dirait que ce qui est dans l'interview du directeur Kassim Sanogo. Il a dit qu'ils ont 3,5 milliards de francs CFA. Les 3 milliards, ça, c'est le budget de fonctionnement, les salaires et autres. Et 500 millions de francs CFA, ça c'est alloué aux trucs consommables, l'eau, les BIC et autres là, c'est-à-dire les Kleenex, etc. Donc je pense que aujourd'hui, tel que lui, ce qu'il nous a dit, les 500 millions ne peuvent pas réparer les machines.
Et les gains recueillis,
il n'a pas parlé de ça. Je pense que dans l'interview, il y a quelque chose qui manque parce que cette question devait être posée. Ensuite, il devait nous donner des réponses par rapport à cela. Mais je pense que par rapport à ça, l'État aussi a sa responsabilité. Parce que l'hôpital Gabriel-Touré, c'est un hôpital public. C'est sous le tutelle du ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé est lié à qui? Le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, il est dans la mission de qui? C'est le chef de l'État. Je pense que ça doit être sûr. Et le chef de l'État, le jour quand il a juré qu'il va faire quoi? Pour le bonheur des Maliens. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple a réclamé quelque chose. La santé. Aujourd'hui, on est en train de parler de la santé, mais il y a pur encore. Il y a l'éducation. Il y a beaucoup plus encore. Mais si on regarde, l'État ne s'implique pas. Et que c'est-à-dire nos gouvernants eux-mêmes ne se soignent pas ici, au Mali. Ils se soignent ailleurs. Quelle est la concordance? Est-ce qu'ils sont réellement... Qu'est-ce que le peuple, c'est-à-dire la population, les citoyens, a besoin? Ils ne seront pas. Donc, je pense qu'on doit exiger, moi, à mon avis, en tant que citoyen, exiger au ministre de la Santé d'aller se soigner ou faire des consultations à l'hôpital Gabriel-Touré et de demander au président de la République la même chose. Au lieu d'aller ailleurs, s'ils ont besoin des matériels, s'ils ont besoin c'est-à-dire des médecins qui sont qualifiés dans le domaine, ils n'ont qu'à recruter des médecins qui sont qualifiés, de venir aussi, parce que la population aussi a besoin. Moi, je peux avoir, une telle situation, je peux être dans leur situation. Il n'y a pas de médecins qui sont qualifiés, donc ils m'ont laissé comme ça, je vais mourir comme ça, parce que je n'ai pas les moyens, parce qu'ils ont les moyens. Aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens parce que c'est nos ressources qu'ils prennent et ensuite ils vont ailleurs. Donc je pense que ils doivent laisser tout ça là. Au lieu de dépenser ailleurs, dépensons ici. Et je pense que le peuple aussi doit prendre sa responsabilité. Je répète la même chose. C'est au peuple de prendre sa responsabilité. Parce que la santé n'est pas gratuite. On paye. Même la consultation, on paye. L'argent va où? Et nous, on est là chaque fois dans nos grains, au bord du fleuve ou au bord du goudron, en disant l'État a fait ceci, le président de la République a fait cela. Il faut qu'on s'implique nous-mêmes. Et c'est-à-dire connaître davantage où vont nos ressources. Et qu'est-ce que nous voulons? Et qu'est-ce que nous, on paye? Parce que souvent, on a l'habitude de réclamer chaque fois nos droits. Il faut connaître aussi ses devoirs. Le devoir, c'est quoi? C'est d'aller voir réellement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je peux faire.
Donc, vous pensez à une audite de ce secteur-là?
Mais bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire, je pense que le collectif est là. Je pense qu'ils ont, j'ai vu dans leur page, ils ont beaucoup de choses beaucoup de missions. Il y a beaucoup de missions telles que l'Observatoire et autres. Je pense qu'avec ces missions-là, le peuple va s'impliquer davantage pour trouver...
Madame Diawara, et vous, est-ce que vous avez une idée du budget alloué à ce secteur-là, le domaine de la santé?
Non, sincèrement, j'en ai aucune idée. C'est, comme il a dit, c'est hier que j'ai su que 3,5 milliards étaient alloués à Gabriel Touré. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que l'État subventionne Gabriel Touré à 3,5 milliards de francs et... on ne sait pas où vont les autres ressources. Parce que Gabriel Touré a une autonomie de gestion. Comment l'État peut injecter 3,5 milliards et que Gabriel Touré se trouve encore demanderesse, je ne comprends pas. Il y a des questions encore qu'il faut poser et que nous irons poser. Parce que vu tout ce qui s'y passe, Gabriel Touré, c'est quand même... tous les malades, toutes les urgences qui vont là-bas, c'est comme il a dit, c'est Raïda. C'est le Raïda des hôpitaux. Et le Raïda des hôpitaux ne peut pas être déficitaire. D'où quand j'ai parlé de problème de gestion. Parce qu'il y a quand même un problème de gestion dans ces hôpitaux. Les trois hôpitaux du Mali ont une autonomie de gestion. Mais l'État injecte quand même de l'argent dedans. Mais où vont les recettes? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'on nous explique.
Mais donc, est-ce qu'on peut parler de malgérance ou de détournement dans cette situation-là?
Je ne saurais le dire. Je préfère dire malgérance.
D'accord.
Et mal répartition plutôt que détournement, parce que détournement, c'est trop dire. Je ne veux pas me retrouver devant le juge au sortir de cette émission.
D'accord. Donc, voilà. Vous, Mme Meïga, que pensez-vous de toute cette situation concernant le plan financier?
Franchement, les ressources de l'hôpital Gabriel Touré, franchement, avec ces ressources-là, il ne devrait pas avoir d'autres financements venant de l'État, parce que franchement, ils ont beaucoup de consultations, ils ont beaucoup de choses que les malades même vont payer. Donc, franchement, on doit avoir un point de vue. On doit connaître franchement où vont ces ressources-là, franchement.
D'accord. Et vous, Monsieur Sissoko?
Okay, merci. En termes de ressources, souvent ça varie, on donne des chiffres. Je ne suis pas spécialiste du budget, mais je crois entendre souvent 15%. L'État alloue 15% de son budget à la santé. Voilà, ça c'est un. Mais ici, même s'il y a eu ce cas de l'hôpital Gabriel Touré, et je ne souhaiterais pas qu'on fasse le focus sur le cas de Gabriel Touré. Et c'est bon de faire le focus sur l'accès à la santé même.
D'accord.
Et l'accès à la santé, non seulement pas Gabriel Touré, même pas Bamako, mais...
C'est pas que Gabriel Touré qui est confronté à cette situation, même
justement,
au point G.
L'accès, voilà. L'accès à la santé au Mali, c'est autre chose. Parce que, vous voyez, hein, nous parlons du cas de la capitale. Essayons d'imaginer les capitales régionales, les cercles, les fins fonds. Mais c'est des Maliens qui sont là-bas comme nous. Ils ont droit à cette santé comme nous. Vous me suivez un peu? Donc, quand je vais extrapoler sur toute l'étendue du territoire, et déjà que nous constatons que dans la capitale, ça ne va pas, essayons un peu d'imaginer ce qui se passe dans les régions. Ça, c'est un. Au deuxième point aussi, nous parlons de la santé en général, mais l'accès à la santé spécifique pour des groupes vulnérables, qui ont plus besoin de santé. Je prends le cas des personnes handicapées. C'est encore déplorable. Vous comprenez un peu? Les infrastructures ne sont pas accessibles. La communication, les supports de communication ne sont pas accessibles. Les centres de santé ne sont pas disponibles proches de la population, des personnes à mobilité réduite. On a tous ces grands problèmes qui viennent. Je vous prends le cas, par exemple, je vais en SSR, santé sexuelle et reproduction. Vous savez, une femme handicapée physique, quand elle doit accoucher, c'est vraiment pénible à voir. Tout simplement parce que la table gynécologique a une hauteur. Elle ne peut pas monter seule, descendre seule pendant son travail. Et que les sages-femmes ne sont pas disponibles, ne sont pas disposées, ne savent même pas aussi comment s'y prendre On a des pertes en vies humaines, des mères et d'enfants. Juste pendant un plaidoyer que nous avons fait auprès d'une organisation qu'on ne va pas citer le nom parce que nous sommes sur le plateau, on a eu 6 tables gynécologiques qui ont été mises à la disposition des 6 CCRF du district de Bamako et les CSCOM et hors de Bamako. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est vraiment déplorable. Mais ce qu'il y a, je reviens sur ce que monsieur avait dit, c'est monsieur Konaté, non? Il faut tenir compte de la répartition des ressources. Dans les objectifs du développement durable, qu'on appelle les ODD de l'agenda 2030 des Nations Unies, il est dit, dans l'objectif 3 qui concerne la santé, il est dit de accroître le budget alloué à la santé, de recruter du personnel, de le former et de le maintenir de manière durable afin que toutes les populations aient accès à la santé sur la base de l'égalité avec les autres. Vous comprenez un peu? Et dans cette optique de cet agenda-là, il faut comprendre que tous les agences onusiennes, tous les bailleurs de la santé, ils sont prêts à injecter de l'argent dans ce sens-là. Mais pourquoi ces ressources sont gérées autrement, on ne comprend pas. C'est parce que nous, on ne s'intéresse pas à la chose, comme il le dit. La société civile doit vraiment s'élever. Je salue et j'encourage vraiment la présence de ce collectif-là. Et je suis même prêt à les promouvoir, qu'ils aient plus de voix diversifiées pour amplifier cette voix-là. Parce que c'est la société civile qui doit jouer son rôle à ce niveau. Ça, c'est un. Et de deux encore, je vous apprends que même au sein du personnel de la santé, il y a des mécontents. Parce que si vous suivez la journée aujourd'hui, vous allez voir qu'au niveau de l'ordre des médecins, même, il y a une dissidence qui veut changer les choses, qui est en train de bousculer les choses. Et je pense que nous devons être informés de toutes ces actions, en faire une synergie pour vraiment ramener la santé au Mali comme il le faut.
Mais merci. Est-ce qu'on n'oublie pas les collectivités?
On n'oublie pas les collectivités parce que les collectivités aussi, ils ont un lien avec l'État central qui n'est pas aussi très clair. Est-ce qu'on a déconcentré les services? Mais est-ce qu'on a déconcentré les ressources? Il y a ce problème aussi qu'il faut trancher entre les collectivités et l'État central. Vous voyez, est-ce que ces collectivités-là sont suffisamment, ont les capacités? Est-ce qu'en déconcentrant, on a donné à ces collectivités les capacités qu'il faut de pouvoir gérer de manière locale la santé comme elles doivent être gérées au niveau central? Il y a toutes ces questions aussi qui viennent. Vous voyez un peu? Donc, je pense que quand la société civile fera un bond sur ce problème, à partir de là-bas, on va sortir toutes les solutions qu'il faut.
D'accord. Madame Diawara, qu'avez-vous à répondre à cela concernant les collectivités?
Concernant les collectivités, nous nous posons beaucoup de questions, comme Malik l'a dit, comme lui aussi l'a dit. Nous nous posons beaucoup de questions parce que est-ce qu'elles ont les ressources nécessaires? C'est bien bon de dire que voilà, les collectivités doivent faire ci, doivent faire ça, mais est-ce que les ressources y sont? Là, je crois que si la société civile s'y met, nous pourrons répondre à beaucoup de questions, nous pourrons avoir beaucoup de réponses. Parce que si tout ce désordre-là existe maintenant, c'est que nous nous sommes un peu endormis, nous les avons laissés faire, et au détriment de nos vies. Chacun ici a une petite histoire avec les hôpitaux. Chacun a une mauvaise expérience des hôpitaux. Je ne dis pas que tous les médecins sont mauvais. La preuve, mon mari est médecin. Mais je dis quand même qu'il y a beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses à revoir, et que si la population ne s'y met pas, c'est un suicide collectif.
Et quand vous dites qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires, qu'est-ce qui explique cela?
Pour le moment, je ne le sais pas. Je ne saurais vous répondre pour le moment parce que nous sommes en train de prendre différents contacts. Et j'ai peur de raconter des bêtises qui pourront me rattraper après parce que vous avez des vidéos, il y a des enregistrements après. Donc je préfère aller au fond de nos enquêtes et puis revenir peut-être vous donner les bonnes réponses. Parce qu'il y a tellement de questions qui sont là et qui mériteraient qu'on s'y mette. Et si les décideurs étaient un tout petit peu sensibles à ce qui se passait, ils seraient un peu accessibles aussi. Parce que imaginez, pour rencontrer le ministre de la Santé, quelle acrobatie il faut faire pour uniquement rencontrer des citoyens maliens. Il est payé par nos impôts. Et pour le rencontrer, discuter avec lui, voir ce qui se passe, que ce soit le ministre ou n'importe quel décideur, il faut vraiment jongler, il faut faire... Ce n'est pas normal. Nous aussi, nous avons des droits et il est temps, nous allons nous lever pour réclamer nos droits.
D'accord. Alors, Monsieur Konaté, mm-hmm. Oui, qu'avez-vous à nous dire concernant cette question?
En fait, comme elle a dit actuellement, parce que nous ne sommes pas, je sais que je l'ai dit, en tant que citoyen, souvent on reste à la maison à critiquer, mais on ne va pas directement à la source pour vérifier. Ça ne serait qu'hier qu'on a entendu le DG en expliquant la disparition des dons qui ont été offerts par la Russie, parce qu'ils sont déplacés pour aller voir le DG. Sinon, à la maison, nous pensons que c'était déjà. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est à nous, citoyens, de se lever et connaître d'abord nos droits. Et ensuite, faire aussi nos devoirs, et on verra après. Maintenant, en ce qui concerne le budget qui sont alloués, mais c'est tout à fait normal, le budget est là. Même s'il y a d'autres choses, c'est-à-dire les ressources, les gains des hôpitaux, mais c'est tout à fait normal de les allouer des budgets, si ça ne reste que, c'est-à-dire les salaires des employés. Mais le problème est qu'il n'y a pas de suivi de contrôle. Il n'y en a pas. Si on regarde maintenant les 3 millions comme l'hôpital Gabriel-Trey, aujourd'hui on parle de l'hôpital Gabriel-Trey, bien vrai qu'il y a des difficultés dans les autres hôpitaux, mais on parle de l'hôpital Gabriel-Trey parce que c'est le centre ou le noyau même des hôpitaux du Mali. Parce que c'est le plus, c'est-à-dire fréquenté le plus, il peut y avoir plus de visiteurs par rapport aux autres. Maintenant, s'il y a 3 500 000 francs CFA et que le DG nous explique en disant 3 milliards, ça c'est pour les salaires et autres, les 500 000 francs CFA, ça c'est la réparation, la construction des bâtiments et autres, on doit nous expliquer clairement, avec un budget détaillé, avec un suivi, c'est-à-dire les outils, en disant tel montant est rentré dans tel côté, tel montant est rentré dans tel côté, parce que c'est de nos ressources. Mais tant qu'il n'y a pas ça, chaque année, c'est ça aussi, on doit acquiser nos élus. Et on doit acquiser aussi les électeurs, nous les électeurs. Parce qu'on vote pour eux, parce qu'ils nous ont donné 2000 francs, 1000 francs pour voter pour eux. Et quand ils sont c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, ils vont prendre les lois. C'est-à-dire, ça ne serait que le ministre les donne 1000 francs ou 1 million de francs CFA. Donc, ils vont voter. Mais il n'y aura pas de suivi. C'est eux qui doivent, c'est-à-dire réellement suivre ces actions-là. Parce qu'ils votent le budget national chaque année et c'est à eux maintenant de vérifier et de rendre compte à la population. Mais maintenant, chacun a sa responsabilité. La population aussi doit s'élever parce qu'il faut aller vers l'information. L'information vient vers nous, mais il faut aller vers l'information et vérifier tel que le collectif Santé pour tous est en train de le faire.
D'accord. Alors, Madame Maïga, donc, êtes-vous du même avis concernant le déficit de communication qui serait l'une des causes de toute cette situation?
Oui, il y a le déficit de communication, oui. Il y a aussi, bon, moi je vais m'apaiser sur l'autre aussi, le déficit de formation des nouveaux recrues. Il y a la formation académique, mais la pratique aussi. Quand l'intéressé, le médecin est recruté, nouvellement recruté, il faut le former encore plus pour qu'il ait plus d'expérience dans son boulot, qu'il puisse mieux prendre en charge les malades. Je rejoins mon frère sur la santé inclusive, par exemple, et pour la prise en charge des personnes atteintes d'albinisme, la prise en charge du cancer de la peau, par exemple. Il n'y a pas de prise en charge pour ça au Mali ici. Et puis, on a une structure où, quand il y a une personne atteinte d'albinisme qui a le cancer de la peau, il n'y a qu'une seule structure à Bamako où les malades doivent se diriger. Donc moi, j'interpelle en plus aussi les dirigeants qu'ils forment des pédiatres et sur le domaine de l'albinisme et spécialisés dans la prise en charge du cancer de la peau. Parce que ceux qui sont éloignés dans les villages lointains, très loin de Bamako, et il faut des pédiatres là-bas aussi pour qu'ils puissent prévenir le cancer de la peau. Parce que quand le cancer atteint sa phase finale déjà, il n'y a plus de solution à ça. Donc, or que ça commence petit à petit et ça atteint la phase finale. Donc, quand il y a des médecins qui sont là-bas, les malades n'auront pas besoin de venir à Bamako pour se faire soigner.
Mais quand vous dites formation, vous parlez de coaching, non?
Voilà. Après leur formation académique, ils auront. Moi, je pense qu'il faut ça aussi.
D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Sissoko, oui. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une solution à cette situation?
Pour trouver une solution à cette situation, il faut... La solution de cette situation, c'est le futur souhaité du Malien. Ce que nous voulons de la santé, ce qu'il faut pour nous, pour notre santé, c'est ça, le besoin du Malien. Le Malien en général, le Malien dans sa spécificité. Le Malien, personne handicapée, comme elle a dit. Le Malien, personne atteinte d'albinisme, qui est vulnérable face au soleil et qui peut contracter un cancer du cou. Le Malien, personne atteinte d'albinisme, qui naît avec une vision basse de 2 sur 10 et qui doit tout au long de sa vie porter des glaces pour mieux voir. Vous me suivez un peu? Le Malien, qui est la femme rurale, comment il faut l'informer? Avec quel support, avec quelle méthode facilement on peut l'expliquer? Le planning familial. Voici des groupes cibles qui forment des Maliens. Il faut savoir quels sont les besoins de ces personnes-là et les orienter vers la politique globale même de la santé, comme je vous l'ai dit, qui sont les objectifs du développement durable, et en faire une loi. C'est de ça que la loi doit s'inspirer. La loi doit s'inspirer du référentiel et des besoins des peuples dans leur diversité. Quand on a une loi bien concentrée contenant tout ça, on aura des politiques vraiment inclusives qui vont prendre en compte les besoins de tout ça.
Et est-ce qu'on peut songer à des sanctions concernant les vols de médicaments dans les hôpitaux?
Sanctions, je serais un peu bas. Sanctions parce que ça allait concerner le point que j'allais aborder avant que vous parliez. Sanctions, oui. La sanction fait partie de la régularité. Généralement, ici, on adopte des politiques, mais sans des politiques pour réguler ces politiques. Je veux donner des médicaments au Gabriel Touré. Ça fait partie de la politique. Vous me suivez un peu? Je veux savoir qui ont eu accès à ces médicaments-là. Ça amène à réguler cette politique pour éviter ces vols-là. Donc, sanction, ça, c'est à la dernière phase. Mais il faut des politiques publiques. Il faut que ces politiques publiques soient régulées. Vous me suivez un peu? Soient aussi évaluées. Parce que c'est le manque d'évaluation qui a fait que nous sommes arrivés à un scanner gâté et on nous amène des arguments que c'est surutilisé. S'il y avait des évaluations à mi-parcours, on saurait que ce scanner ne pourrait plus nous servir jusqu'à une période et commander un autre. Vous voyez un peu? Donc il faut une loi inclusive, des politiques reflétant sur ces lois-là, réguler ces politiques-là, faire l'évaluation de tout ça. Et une chose est très importante, c'est que tout ça, il ne faut pas laisser dans la main de l'État. Mais il faut que dans tout ce processus de la conception, de la mise en œuvre, de l'exécution, du suivi et l'évaluation, il faut que toutes les forces vives participent, et l'État et la société civile. C'est très important.
D'accord. Et vous, Madame Diawara, en termes de solutions?
En termes de solutions, déjà, nous, au niveau du collectif, nous avons pensé à nous former d'abord, à nous informer, à nous former sur les différentes lois qui existent sur l'environnement juridique au Mali, notamment la loi hospitalière et la charte du malade. Dans ces différentes lois, nous avons des pistes de solutions, des pistes qui garantissent quand même le droit du citoyen lambda aux soins de qualité, à des soins de qualité. Et ce que nous proposons de faire, c'est de divulguer au maximum ces lois et ces chartes, et cette charte, pour que tous les citoyens sachent qu'ils ont des droits et que si jamais il y a des abus, que ces abus peuvent, ils ont des recours. Même si on a peu foi à la justice, mais je pense qu'il faut qu'il y ait quand même un précédent. Il faut qu'il y ait des sanctions pour que certaines pratiques cessent. Pour que ça s'arrête, il faut diffuser au maximum les lois, informer, diffuser dans toutes les langues, informer le citoyen de tout ce qui se passe dans les hôpitaux, parce que nous avons un œil normalement sur la gestion de ces hôpitaux à travers l'association des consommateurs. Et puisque l'association des consommateurs ne joue pas son rôle, le collectif est décidé à se battre pour que nous ayons aussi
notre
place.
Que voulez-vous dire par là quand vous dites que
l'association des consommateurs ne joue pas son rôle? Parce que comment vous pouvez penser que le scanner de l'hôpital, je reviens à cette histoire de scanner, mais ce n'est pas que le scanner. Hier, nous avons discuté avec le directeur qui nous a parlé de... Nous avons vu que le scanner, mais il y a d'autres matériels qui sont là et qui ne fonctionnent pas. Et comment ça se fait que le simple accès aux urgences, on n'est pas capable de réguler ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient aux urgences, dans l'article 10 de la loi hospitalière, la personne est automatiquement prise en charge par un médecin. Est-ce que si l'association des consommateurs jouait son rôle, on aurait vu certaines personnes mortes parce que pour faute de soins? Est-ce que si l'association existait réellement, il y aurait eu manque de médicaments quelque part? Il y aurait eu même vol de médicaments? Il y aurait eu des soins déficitaires? Parce que qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas à qui s'adresser. Et l'association ne joue son rôle ni sur le plan de la santé, sur aucun plan ici au Mali. Je suis désolée, je m'excuse de le dire, mais c'est vrai.
D'accord. Monsieur Konaté, qu'avez-vous ajouté?
En fait, comme ils l'ont dit, en fait, moi je pense que la solution doit venir de nos gouvernements. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Nous, en tant que citoyens, on peut faire nos, comme on le dit, nos ouya-ouya, mais c'est à eux de décider. Et c'est à eux aussi d'appliquer la loi. Parce que le président de la République, il est garant de la Constitution et les exécutions, c'est-à-dire c'est le ministère et autres. Maintenant, je pense que nous, notre rôle à jouer dans cet état, dans cette situation, c'est de prendre les choses en main et voir réellement qu'est-ce que nous-mêmes on veut comme dirigeant.
Mais ne pensez-vous pas qu'on a assez de lois, on a suffisamment
de lois? C'est pour ça que moi j'ai l'habitude de dire au Mali, on est tellement, si on doit qualifier un pays développé en termes de documentation ou en termes de texte, le Mali faisait partie des premiers, déjà, parce qu'on est fort dans ça. On peut s'asseoir pendant 30 minutes, on écrit tout ce qu'on veut. Et voilà, tout est bien fait. Même si Washington, on va là-bas, tout le monde va voter pour. Mais le problème, c'est que c'est dans l'application qu'il y a problème. Pourquoi? Parce que si on regarde réellement au moment où l'année passée, là, c'était même pratiquement la même période, l'année passée, les médecins étaient en grève pendant 38 jours. Imagine, 38 jours, le ministre qui était en charge, il était là-bas, il n'a rien fait. Après, paf! Lui, il est parti, il y a un nouveau. Après, il y a une négociation, paf, les médecins ont recommencé. Qu'est-ce qui a changé? Il faut d'abord que l'État prenne sa responsabilité, c'est-à-dire améliorer d'abord la condition de vie de nos médecins. Améliorer aussi la condition, c'est-à-dire la condition même d'hospitalisation de nos malades. Parce que quand on regarde à l'hôpital, on va trouver aussi dans les vérandas, tu verras des femmes par terre, des enfants par ici. Et moi qui ai été victime l'année passée, le 11 janvier 2017, l'approche même du commandant du sommet, j'ai été victime, c'est-à-dire de circulation. Quand je suis parti à l'urgence, j'ai passé 30 minutes avant qu'il a failli que voilà, je joue mon rôle de l'activisme ou je joue mon rôle de journaliste pour qu'il s'intéresse à moi. Et quand ils ont commencé, la dame, je l'ai demandé, elle m'a dit qu'elle n'a pas de ciseaux. Comment se fait-il que dans une urgence, on peut dire qu'il n'y a pas de ciseaux pour soigner, c'est-à-dire une malade? Non, ça c'est exagéré. Je pense que l'État doit prendre sa responsabilité. La solution ne peut venir que eux. C'est à eux maintenant de jouer. Nous, on peut tout dire.
D'accord.
Tant qu'eux ne mettent pas la main, il n'y a rien du tout.
Merci. Et vous, Madame Meïga, avant de boucler ce débat?
Je le rejoins et je soutiens ça aussi. C'est à nos dirigeants vraiment de prendre les responsabilités pour l'application et le suivi, comme mon ami l'a dit. Il faut qu'il y ait un suivi pour que tout soit mis dans l'ordre et que tout aille bien, franchement.
D'accord. Merci beaucoup, Madame Meïga. Oui, vous voulez réagir?
Oui, juste un dernier 20 secondes
seulement le temps.
Un dernier message très rapide.
Voilà, allez-y.
Voilà, il faut reconnaître que nous sommes dans un environnement démocratique et la liberté d'opinion et d'expression existe. J'interpelle tous les Maliens vraiment, à savoir qu'ils ont des droits et devoirs auxquels ils doivent aspirer. Nous les interpellons à savoir que le processus électoral n'est pas quelque chose de fait pour que les politiciens, c'est l'avenir de nous et de nos enfants sur une étape de 5 ans. Donc, on interpelle tout le monde. Merci. À vraiment choisir sur des critères du développement.
Merci beaucoup, M. Voilà. Sissoko. Et cela met fin à ce débat sur l'accès, les défis liés à l'accès aux services de santé. Un grand merci à nos invités. Mariam Diawara, porte-parole du collectif Santé pour tous au Mali. Mamadou Sissoko, de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées. Madame Maïga Aminata Traoré, présidente de l'Association pour la protection des albinos. Malik Kounaté, citoyen. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Gagny Conté. La régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation et une coordination de Mohamedou Touré.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Halud Mouni.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.